BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h30, bienvenue dans les experts. On est parti pour une heure de débat et de controverse avec une question ce matin. Dans quel état se trouve la France? Non, tout ne va pas si mal. La preuve, la France reste championne des investissements étrangers pour la 7e année consécutive. Oui, mais attention, prévient EY qui publie chaque année son baromètre de l'attractivité. Les investissements sont en baisse, la concurrence européenne est en hausse. Et surtout, les investisseurs attendent de la France un cap clair, un cap pro-business. Un cap qui a complètement disparu depuis la dissolution de 2024. Un exemple, les impôts de production qui devaient baisser ont atteint près de 100 milliards d'euros en 2024. C'est la note qu'a publiée la Direction générale des finances publiques il y a 48 heures. C'est deux fois plus qu'en Europe et quatre fois plus qu'en Allemagne. Des impôts contre la production, indiquait il y a quelques années le Conseil d'analyse économique. Eh bien, c'est toujours vrai. Des impôts qui continuent de plomber notre tissu industriel. On verra pourquoi. Ce sera le premier thème des débats. Et puis, une révolution fiscale est-elle possible en 2027? Ce n'est pas Piketty qui le dit, mais Jean-Hervé Lorenzi qui est sur le plateau ce matin. Dans ce nouvel ouvrage à paraître la semaine prochaine, « Guerre et paix entre profit et salaire », on va en discuter et comprendre pourquoi la politique de l'offre est passée d'un succès à un échec. En tout cas, c'est le constat que dresse Jean-Hervé Lorenzi. On en discutera tous ensemble en fin d'émission. Voilà pour le programme. Il est 9h passé de 32 minutes. Allez, c'est les experts, c'est parti. Et pour faire ensemble le diagnostic de l'économie française, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nathalie Janson. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël.
Professeure d'économie à Neoma Business School et présidente du think tank libéral Génération Libre. À vos côtés, Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la rédaction de La Tribune et Jean-Hervé Lorenzi, qu'on ne présente plus. Cher Jean-Hervé, bonjour.
Bonjour.
Président du Cercle des économistes des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je voulais qu'on commence par l'étude d'EY. Évidemment, c'est la grosse actualité du jour. Aujourd'hui, c'est la une de nos confrères de la Tribune ce matin avec... Bon, Ludovic, je commence avec vous. On va faire un peu la synthèse. On est content, ça fait 7 ans qu'on est champion d'Europe de l'attractivité. Ouais. C'est quand même le signe que tout ne va pas si mal. On fait un peu la chronique de tout ce qui fonctionne mal au niveau économique dans ce pays. Et Dieu sait qu'il y a quelques sujets sur la table. Il n'empêche que si on reste première destination pour l'investissement étranger en Europe, les entreprises, elles sont rationnelles. Les investisseurs, ils sont rationnels. C'est que ça fonctionne pas si mal, finalement.
Non, il y a un constat positif, c'est que la France reste leader au plan européen, devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni, donc même si les positions se resserrent. Après, la lecture macro, et c'est là où vous allez m'en vouloir tout de suite, Raphaël, la lecture macro, c'est qu'évidemment, on reste leader dans un mouvement qui est en train de se contracter à grande vitesse. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est que la France, l'attractivité de la France reste là. C'est un pays qui est plébiscité et ça reste un point d'ancrage et d'entrée pour le marché européen en termes d'investissement étranger. Merci. Et notamment, merci parce que je pense qu'on est beaucoup aidé par notre position géographique et nos infrastructures.
Bien sûr.
Pas tant par notre système fiscal, on va pas se mentir. En revanche...
Non mais voilà, on va passer un peu en revue les points positifs.
En revanche, et puis tout ça compliqué. Dans un cadre où l'Europe est en train de perdre son souffle.
C'est ça vraiment la. Et on voit les investissements, c'est en fait l'ensemble sur Allemagne, Angleterre, on est trio tête, hein. Ouais. C'est France, Angleterre, Allemagne. Bah tout baisse.
Ouais, en réalité, tout baisse.
Hein,
tout,
les investissements baissent chez nous, mais pas que chez nous. Nathalie, qu'est-ce que vous avez retenu de ce baromètre EY?
Ce que j'ai retenu surtout, c'est effectivement l'impasse politique qui pèse en fait sur cette première place aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on voit bien que non seulement on paye les conséquences de ce qui s'est passé au niveau de la dissolution, mais on rentre dans un autre attentisme pour savoir ce qui va se passer en 2027. Donc, comme vous l'avez très bien dit en introduction, en fait, le problème, c'est le cap. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien quel cap a aujourd'hui la France. On ne sait pas bien, en fait, non plus quelle force politique sera au pouvoir. Et donc, forcément, ça, comme on sait très bien que ce qui est important dans l'investissement, c'est essayer d'avoir le moins d'incertitudes possible. Évidemment, une entreprise prend toujours des décisions en incertitude. Mais là, cette dimension politique en rajoute une. Et ce qui s'est passé depuis la dissolution, effectivement, a été très dommageable. Puisque là, c'est pas seulement qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, ça changeait tout le temps. On avait un espèce de message, faut contrôler les finances publiques. Et puis, en fait, vous aviez le rêve et la réalité. Il y avait une dissonance cognitive permanente qui n'est pas de bon augure, effectivement, lorsqu'on est investisseur international. Donc, en effet, on a plein de choses pour nous. Mais là, on s'est un petit peu on s'est mis du plomb dans l'aile à cause de ces incertitudes cumulées.
Bon. Les investissements qui fonctionnent bien.
Non, juste une parenthèse. C'est quand même merveilleux. On est exactement dans ce que j'entends. Je suis pas tout jeune. J'entends depuis toujours, mais c'était bien avant les générations. Mettons qu'il y ait une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle, je veux dire, d'arriver. Il se trouve que l'Europe marche pas du feu de Dieu. Elle est vieillissante. Elle est pas très bonne technologiquement, etc. Mais ça, c'est pas la France. C'est l'Europe. Et c'est plutôt bien d'être premier. Moi, j'ai toujours préféré être premier, très rarement, que second. Et tout de suite, on explique que, attention, mais ça va pas durer, etc. Si on pouvait pendant quelques secondes,
champagne,
se dire, c'est pas si mal que ça, ça n'a échappé à personne qu'il y avait un problème politique en France. Il y en a en Allemagne, il y en a à peu près partout.
Il y en a
aux États-Unis, il y en a partout. Donc, il se trouve que le monde entier est frappé par une espèce de difficulté à gérer une énorme transition qui nous dépasse tous. Moi, je résume juste la situation pour mon amie Nathalie. On est passé de l'incertitude que on adore, nous les économistes, évoquer à propos des décisions, des investissements, des entreprises, à l'inconnu. Moi, j'ai pas la queue d'une idée. Personne ici n'a que d'une idée de ce qui va se passer dans 6 mois. Personne. Ce que sera la conjoncture mondiale, personne. Ce que sera la conjoncture en France, personne. Je veux dire, donc, prenons juste, attrapons cette bonne nouvelle que la Tribune nous annonce avec EY. Pour une fois qu'on ait une bonne nouvelle, j'y rajoute le fait que ça n'est pas dans le papier de la Tribune, mais c'est normal. Mais je suis frappé aussi de voir que, au fond, quand j'étais très jeune, on était un pays très ingénieux. Alors on disait, c'est formidable, il y a les Caravelles, la DS, etc. Mais on disait, c'est un pays d'ingénieurs, ils savent pas vendre, etc. Puis, on est devenu champion de la finance, on a voulu dans les services. Et je suis frappé de voir que dans les technologies les plus avancées, on est récemment en train d'avoir un petit rebond. Oui. On verra si ça marche.
Je voulais qu'on fasse un point là-dessus sur l'IA, parce que ce qui tire les investissements, c'est très clairement l'IA.
Bien sûr.
Et on est les numéro un en Europe, ça, on peut s'en féliciter.
Très très bonne nouvelle, parce que c'est très clairement la France, et on dit aussi sur ce plateau, parce qu'on n'est pas que dépressif, la France via Mistral, via les data centers et autres, arrive quand même à rester dans la course. On n'est pas leader, on va pas se mentir, mais on reste dans la course.
On est leader, juste je t'interromps une seconde.
Une seconde.
Par exemple, en quantique, il y a toute une chaîne de technologies.
Des annonces cette semaine.
Là, il est vraisemblable, alors je vais citer le nom d'une entreprise avec laquelle je n'ai aucun lien, qui s'appelle Colby, et il est vraisemblablement la boîte la plus technologiquement, une des plus avancées au monde. Et il n'y a pas d'équivalent en Europe.
Et ce qui est intéressant dans le baromètre EY, juste pour qu'on quantifie, c'est que EY a répertorié de mémoire 53 projets l'année dernière sur le terrain IA. C'est la variation qui est intéressante, c'est plus 26%, alors qu'on est dans quelque chose de baissier. En revanche, alors là, Jean-Hervé, ça, il va me détester et tout ça, mais c'est, en revanche, la mauvaise nouvelle là-dedans, et ça, parce qu'on sait tous que c'est aussi un indicateur un peu avancé, c'est l'énorme coup de frein globalement sur la R&D. Ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Parce que là, par contre, en R&D, on a un coup de frein globalement,
je sors de l'IA,
de 47%. Or, la R&D, et je regarde vraiment Jean-Hervé, parce que c'est une des problématiques, c'est-à-dire que c'est à quel point, au-delà de l'IA, on a du mal quand même, la France, là, je vais vraiment parler de la France, c'est valable ailleurs, mais de surfer, de prendre cette liane qui est aujourd'hui nécessaire au plan économique, celle de l'innovation, qui est notre tremplin. C'est-à-dire que si on ne saisit pas ce tremplin, tout vient de devenir compliqué.
En même temps, sur le quantique, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal, hein, en recherche fondamentale.
On n'est pas encore sur des industries installées. C'est-à-dire, le quantique, oui, oui. C'est demain. Oui. C'est là où aujourd'hui, il y a des ruptures technologiques, oui, et industrielles. Et aujourd'hui, il y a l'annonce du plan Stellantis. Le plan Stellantis, on va bien comprendre qu'il va se jouer en grande partie en dehors de la France et en dehors de l'Europe.
Ce coup de frein sur la R&D, Nathalie.
Le coup de frein sur la R&D, voilà, ça va être lourd. C'est effectivement quand on a une incertitude, alors qu'il devient une incertitude radicale. Donc voilà, qu'on a du mal, qu'on ne peut pas en fait rentrer dans les chiffres.
Il y a une grosse charge quand même qui est censée un peu dynamiser ça.
Là, en effet, ça plombe en premier lieu la R&D. Et puis de toute façon, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que nous avons un mode de financement qui n'est pas très adapté pour financer justement les innovations. Puisque l'innovation, ça demande beaucoup de capital risque, et là-dessus, on n'est pas bon.
Ah, donc c'est la profondeur des marchés de capitaux.
Et oui, la profondeur des marchés n'est pas là. On a la BPI, d'accord, mais en fait, ça ne suffit pas. Il ne faut pas que la BPI...
Nathalie, avant la fin de l'émission, j'aurais réussi à t'arracher un truc positif.
Mais non, c'est positif.
Alors, voilà.
On a deux camps qui s'opposent. Oui.
Mais c'est pas supposé.
Il y a le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté.
C'est quand même la caractéristique française depuis 2000 ans. C'est quoi qu'il arrive, on est toujours en train de expliquer que tout est dramatique.
Pas du tout, mais moi je ne dis pas que tout est dramatique, je dis simplement que pour les investissements de demain, il faut effectivement cette capacité à financer l'innovation, que malgré tout, c'est vachement bien ce qu'on arrive quand même, puisqu'on a justement Mistral, mais qu'on pourrait faire beaucoup mieux si, effectivement, on avait fait autrement, c'est tout ce que je suis en train de dire.
Je vais te dire, ma chère Armin, notre problème, il est que nous sommes un pays béni des dieux, riche, on parle de géographie, mais on a un pays d'avoir béni des dieux, mais vieillissant, et que les vieux, dont je fais partie, ils ont horreur du risque. Ça n'a rien à voir avec ni la France, ni Octru. Il n'y a pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour savoir qu'il y a une relation entre l'âge et la prise de risque. Et que ce pays qui est en réalité, qui dispose de beaucoup de capacités de financement, elle est entre les mains des gens, des retraités, ils ne prennent pas de risque majeur.
Ludovic.
Il y a une autre lecture sur ce baromètre, EY, qui me semble opportune, en tout cas, d'adresser. C'est, et je suis entièrement d'accord avec Jean-Hervé, célébrons la position de la France et le fait d'être numéro un. Ce que raconte quand même ce baromètre en creux, c'est que l'attractivité de la France est maintenue, mais le couac là-dedans, c'est pas tellement la France, c'est que c'est les investissements étrangers qui baissent de partout dans le monde. Et ça, c'est pas de la faute de la France.
Alors, partout dans le monde.
C'est-à-dire que quand on voit que l'Allemagne, c'est un coup de frein de 26% sur les investissements étrangers, c'est pas la France qui est responsable, c'est que l'Allemagne va mal. Quand les États-Unis baissent de 14% l'investissement étranger, c'est qu'il y a des questions aux États-Unis. Quand le Royaume-Uni baisse ses investissements, c'est-à-dire qu'en fait, chaque pays, ce baromètre traduit le fait que chaque pays a des problématiques à adresser et que c'est globalement une contraction et on reste leader dans des questions que tout le monde est en train de croiser. Et c'est une réalité, en fait.
Bon, en même temps, on a trois méga IPO qui arrivent, Anthropic, OpenAI et SpaceX. C'est-à-dire, c'est trois fois 1000 milliards.
Oui.
Donc, il y a des capitaux, il y en a quand même qui tournent et c'est une autre échelle. Hein. Je crois que le président de la République doit annoncer des investissements en fin de semaine. On est sur... On va chercher 1,5 milliard, 2 milliards en France 2030 pour aller financer des programmes. Quand on est, voilà, la nouvelle échelle, c'est en milliers de milliards de dollars. Derrière l'IA, quand même, je voulais souligner des secteurs qui souffrent, et c'est ce que souligne l'étude EY. Le pessimisme de la raison, cher Jean-Hervé, mais l'automobile,
on va faire
Poissy, la chimie, la plasturgie ou la métallurgie, derrière l'arbre de l'IA, eux vont plutôt mal.
Ouais, là, c'est
nous avons deux défauts de caractère. Le premier, c'est ça c'est français, jamais on entendrait un discours pareil en Allemagne, toujours d'expliquer que derrière une éventuelle bonne nouvelle ou nouvelle moyenne, il y a tout ce qui est mauvais.
Ah, mais on peut décortiquer.
Et deuxième caractéristique, sur le crédit impôt recherche, les économistes, dont nous faisons tous les trois parties, cette catégorie de gens très sympathiques, mais ils adorent les effets d'aubaine. Ça, c'est le sujet sur lequel on se déchaîne.
Oui.
Il se trouve que le crédit impôt recherche est une des raisons, d'ailleurs, favorables à l'avenue d'entreprises en France, d'investissement, mais C'est exactement comme l'apprentissage. On dit, oui, mais ça touche une catégorie, que c'est pas bien.
C'est trop concentré, que c'est les grands groupes qui en profitent.
On commence à expliquer, il faut le réduire parce que ça te
fait comment
on fait pour l'apprentissage. Donc on a ce, je trouve que le crédit d'impôt recherche est une très bonne chose. Attention.
Il faut le défendre parce qu'il est attaqué à chaque projet de loi de finances.
Mais attendez, ça, c'est la logique absolue du discours sur l'effet d'aubaine. C'est, qui est le bain préféré des économistes. Comment expliquer qu'il y a toujours un effet d'aubaine? J'ai jamais vu une mesure qui n'a pas un effet d'aubaine.
Bon, je voulais qu'on parle industrie parce que je voulais qu'on parle impôt de production aussi. Hasard du calendrier ou pas, la Direction Générale des Finances Publiques, un des services de Bercy, a publié il y a 48 heures une note sur les impôts de production, sur le montant global des impôts de production qui devaient baisser sous le quinquennat, qui atteignent quasiment 100 milliards d'euros. Tout le monde ne sait pas ce que sont les impôts de production. Je voulais qu'on y revienne un peu, bien expliquer ce mécanisme, expliquer comment ça joue sur l'activité, le point de rentabilité des entreprises, pour arriver à quand même une sorte de hiatus entre on veut réindustrialiser d'un côté et en même temps on taxe l'entreprise. Vous créez une usine, vous taxez, vous achetez une machine, vous taxez, et dès que vous produisez plus, on taxe encore plus. Nathalie, c'est quoi un impôt de production d'abord? Qu'est-ce qu'on met dans les impôts de production? Quelle est sa spécificité?
En fait, les impôts de production, donc, il y avait deux principaux, c'est CVAE et C3S. L'idée, c'était d'avoir effectivement un financement qui pouvait d'ailleurs aller, enfin, qui va aux collectivités locales, donc oui. Qui permet effectivement de financer tout l'environnement d'une entreprise, qu'une entreprise, elle ne fonctionne pas au mieux de rien, hors sol. Donc, voilà. Donc, l'idée est d'avoir une stabilité des finances de ces collectivités. C'est une bonne idée. Simplement, effectivement, comme ces impôts sont payés avant même qu'en fait, l'IED des profits, puisque c'est pas justement sur les profits, eh bien, ça pose la question en fait du coût fixe d'entrée.
Et oui.
Finalement,
c'est ça la spécificité, c'est qu'on n'a pas fait un euro de bénéf, qu'on est déjà
taxé. Et si vous effectivement, si vous faites c'est pénalisant, si vous par exemple vous prévoyez d'investir et de rénover vos installations, elles valent plus cher, donc vous allez payer plus cher d'impôts. Enfin voilà, donc ces impôts de production, en effet, sont très caractéristiques de la France. Comme vous l'avez rappelé, on en a il y a quatre fois plus en France quand on compare à l'Allemagne. Donc, en effet, ce n'est pas un facilitateur pour, effectivement, ça désincite, en fait, à s'installer, même si les investisseurs étrangers sont toujours aussi élevés. N'empêche que ce n'est pas, si on veut.
Alors, j'ai gagné pour Paris.
Non. Je ne suis pas du tout pessimiste, contrairement à ce que vous pouvez interpréter sur les classements. Je dis simplement qu'on pourrait faire mieux, c'est tout. Je pense que dans ces investissements et la place de la France au niveau de l'activité pourrait être supérieure si effectivement on n'avait pas tous ces boulets. Donc effectivement, compte tenu de tous ces boulets, on se débrouille bien. Mais les impôts de production, en effet, étaient fortement réclamés. On voulait qu'ils disparaissent. Effectivement, projet de loi de finances, chaque loi de finances est revenu, en fait, les dernières sont revenues sur cet engagement. Et finalement, ils n'ont pas baissé autant qu'ils le devaient. Et ça reste donc, en effet, un frein pour l'installation. C'est une désincitation supplémentaire.
Promesse non tenue, effectivement. Je vais vous proposer une révolution fiscale. On va y venir dans la seconde partie de l'émission, mais un point précis sur les impôts de production. Est-ce qu'on en a trop ou est-ce que,
Nathalie,
investisseurs viennent...
Mais de manière un peu plus brutale, c'est des impôts qui sont stupides par leur ampleur, stupides par leur mécanisme. Au fond, une entreprise... Le bon capitalisme tel que le décrivait Max Weber, c'est je fais des profits, j'investis, je fais des profits et je les réinvestis. Non pas je rachète des actions, mais je les réinvestis. Il se trouve que c'est aussi, j'allais dire, aussi un curieux et inintelligent que le rachat d'actions. C'est l'idée qu'au fond, l'objectif la mécanique du capitalisme, c'est en permanence de créer de la valeur, de créer de la richesse, de créer de l'investissement, oui. Donc l'impôt de production qui prélève avant qu'on ait fait le moindre profit est absurde. C'est d'ailleurs le bon argument qui avait été utilisé contre la taxe, comment elle s'appelait,
Zucman.
C'est la même chose. C'est la même idée que on ne prélève pas ce que tous les pays du monde font. Il y a des prélèvements, il y a des taxes, il y a des impôts depuis que le monde est monde, mais on prélève sur quelque chose, la valeur qui a été créée.
Sur le flux plutôt que sur le stock. Bah, est-ce qu'on peut... Moi, ce qui me fascine, c'est ce hiatus entre le discours politique qui vous explique à longueur de journée qu'il faut absolument réindustrialiser ce pays et ses 100 milliards de taxes sur la production. On est quand même dans une sorte de dissonance cognitive, comme le disait Nathalie tout à l'heure.
Non, mais
est-ce que ça explique une partie des chiffres, problèmes de réindustrialisation?
96 milliards, 100 milliards, c'est-à-dire que la question est presque, j'allais dire, presque idéologique, en fait. C'est réellement, c'est-à-dire, c'est dans la façon d'appréhender ce qu'est un outil de production, un développement économique, c'est-à-dire, en fait, c'est une manne qu'on peut aller taxer. Et j'en fais pas une lecture politique, j'en fais juste ce que peut être le rapport de ce pays par rapport à l'économie et à la capacité à créer une entreprise, à la développer, à investir et tout ça. Donc on s'y prend à l'envers. Moi, le constat de la DGFiP, et c'est un constat qu'on croise régulièrement, plaide vraiment pour une grande remise à zéro de la fiscalité autour des entreprises. C'est-à-dire que on a tout à l'heure Jean-Hervé a parlé du crédit impôt recherche. Là, on parle maintenant de la partie la taxation sur la production. Enfin, c'est un jeu à somme nulle qui ne va absolument pas, mais surtout qui ne plaide pas pour que ce pays, et on en a besoin collectivement, se reformate dans son économie. Parce qu'il y a un enjeu de reformater notre économie, c'est-à-dire notre tissu industriel. On est en train de voir l'économie des batteries nous passer sous le nez, on est en train de voir des développements technologiques nous passer sous le nez. Ça ne nous aide pas. Cette fiscalité ne nous aide pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est chouette, il y a de l'investissement étranger en France, mais il faut aussi que les entreprises françaises qui existent sur le terrain aient envie de se développer, d'y croire. Et honnêtement, quand on voit les chiffres, c'est un fardeau sur les épaules.
Alors, juste peut-être un regard malheureux, alors là je vais être un peu pessimiste, c'est le choix de la désindustrialisation en France n'est pas uniquement lié aux impôts de production.
C'est un choix.
C'est celui de ma génération. Nous sommes devenus les champions de la finance. Alors c'est vrai que la place financière de Paris marche bien.
Oui.
Ça, il faut reconnaître.
Grâce au Brexit.
Il y avait les services et le tourisme. Le service et le tourisme. Et cette idée d'avoir envie de créer. Parce que les impôts de production ne datent pas d'hier. Et il y a 30 ou 40 ans, on était ingénieux, soucieux d'industrie, totalement déchaîné sur une capacité de rebond incroyable. Il faut toujours rappeler ça sous Giscard. On était nuls en téléphonie. Giscard lance un plan téléphonie. En 5 ans, on devient le premier producteur, pas fabricant, mais fournisseur de réseaux numériques à intégration de services. Je veux dire, mais ça, c'était l'envie. Pour faire de l'industrie, il faut avoir de l'envie. Alors, les impôts de production, c'est une bêtise parmi d'autres. Mais je veux dire, c'est malheureusement, notre désindustrialisation est un peu plus profonde. Il me semble qu'il commence à y avoir un mouvement, il faut en avoir envie.
Bah, depuis Arnaud Montebourg, on parle de réindustrialisation. C'était le ministère du redressement progressif. Ça fait quand même... ça fait 15 ans maintenant, et on voit qu'on a du mal. Oui, hein. Ça a fonctionné au début, au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Là, on ferme plus d'usines, corrigez-moi si je me trompe, mais on ferme plus d'usines qu'on enlève aujourd'hui.
Le bilan 25 est négatif.
Il
est négatif, très clairement, en termes d'entité industrielle.
J'insiste sur le fait que les ingénieurs de grandes écoles préféraient partir faire de la finance que...
Oui. Alors, et puis c'était l'époque de la faiblesse, enfin Serge Turuc, fin des années 90.
Il y a peut-être un mouvement qui est en train de se dessiner, parce que, je veux dire, comme tout dans la vie, je veux dire, derrière les impôts, c'est un bout du sujet.
Oui, il y a l'envie,
le désir, le projet. Au fond, on voit beaucoup d'ingénieurs qui, aujourd'hui, de jeunes ingénieurs qui se disent que c'est plus amusant, peut-être en tout cas dans le début de leur carrière, de faire partie de cette incroyable révolution industrielle auquel on assiste. Donc il y a quelque chose peut-être qui se passe, pas particulièrement en France, mais il se trouve qu'il y a peut-être un bouleversement dans ce domaine-là intéressant. Les impôts sur production sont évidemment contre-productifs, mais c'est un bout du sujet. Je veux dire, il faut avoir envie de produire. Je rappelle toujours que au début du XXe siècle, il y avait 200 entreprises qui faisaient de l'automobile entre Puteaux et Courbevoie. Donc les gens avaient envie, c'est un goût, il faut avoir envie de faire ça.
Oui. Et on voit que les dépendances sont de plus en plus compliquées à assumer en temps de crise et que peut-être on a besoin de reproduire, si ce n'est en France, en tout cas en Europe. Allez, on se quitte pour une très courte pause publicitaire. On se retrouve juste après pour parler des propositions de cet ouvrage, Guerre et paix entre profit et salariés, Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur. On va parler politique de l'offre, on va parler révolution fiscale. On va voir tout ça au programme. Évidemment, c'est une année présidentielle qui s'annonce. Beaucoup d'idées. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h, passé de 57 minutes, on est de retour pour la seconde partie des experts, avec toujours autour de la table Jean-Hervé Lorenzi, Ludovic de Sauté et Nathalie Janson pour parler de cet ouvrage à sortir la semaine prochaine, Jean-Hervé. C'est ça, hein, Jean-Hervé Lorenzi et votre comparse Alain Villemeur pour ce nouvel ouvrage, Guerre et paix entre profit et salaire. C'est le sous-titre qui est très important, pour une révolution fiscale. Ça me rappelle un autre économiste, Jean-Hervé. Non, un certain Thomas Piketty, Camille Landais, Emmanuel Cézanne, qui avait publié pour une révolution fiscale.
Ricardo.
Aussi, d'ailleurs, aussi.
Hein, il y a, on se prétend très ricardien.
Quelques années. Années
non, là, je parle de choses sérieuses.
Aux éditions Odile Jacob, le sous-titre donc, pour une révolution fiscale. Vous dites que la politique de l'offre menée par Emmanuel Macron s'est finalisée par un échec, finalement.
Non, l'expression est pas... Mes deux camarades économistes vont bien comprendre. La grosse difficulté de l'économie, la grande difficulté de la croissance, le critère à la fin, c'est la croissance.
Oui.
Stable sur une longue durée, c'est la capacité d'équilibrer une offre qui correspond à des investissements, donc à des profits, donc à une épargne qui investit, et de l'autre côté, une demande qui, ce qu'avait très bien compris Ford, il y a plus d'un siècle
à peu près.
Oui. Et donc, ce que on montre, c'est que quand on prend les États-Unis entre 1909 et 2000, ils ont une croissance, y compris avec les chocs de guerre, ils ont une croissance qui est forte, et avec ce qu'on a essayé de montrer, moi je suis très modeste, hein, c'est juste une, il y a sûrement un tas d'erreurs et de critiques à faire sur ce bouquin, mais on montre que, on voit que la croissance a été extraordinairement forte, avec un pourcentage entre profit, j'allais dire investi,
oui,
et demande réalisée,
oui,
qui est de 2/3. Alors on le montre dans un modèle qui, comme tous les modèles, peut être critiqué. Tous les modèles se révèlent.
Quand on dit demande, c'est salaire, quoi. C'est la répartition entre profit et salaire.
Alors après, simple. Il faut que les profits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chez les vieux, le profit, il va dans une maison qu'on achète, la résidence secondaire ou le truc, et il va pas investir dans les technologies, les composants.
Chez un vieux français. Voilà. Un vieux européen.
Ouais.
C'est des pays. C'est un problème européen, parce que je veux dire, c'est. Alors, puis c'est un système financier qui est pas très porteur de non plus de ça. Et donc, si on part de ces 2/3 pour arriver à ces 2/3 qui sont la seule base. Hein, bon, il se trouve que c'est assez bien démontré, mais enfin, on pourrait montrer que c'est pas parfait. Peut-être pas 2/3, bon, exactement.
On n'est pas à la
décimale. Pour y arriver, il faut une fiscalité. Et ce qu'on montre, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est exactement ce qui a été dit, donc il n'y a plus rien à ajouter. Il y a le crédit impôt recherche, mais alors là, c'est du pour, puis on transfère de l'autre côté, et alors le crédit impôt recherche, on dit c'est terrible, c'est 10 milliards, mais on en pique 100 en impôt de production. Donc tout ça est absurde. Mal foutu, et en réalité le mot exact c'est mal foutu. Donc à partir de ça, nous on a pris 8 principes qui permettent de se rapprocher de ce 2/3 pour avoir une croissance on a une croissance potentielle qui est faible.
Oui.
Comme chacun sait, croissance potentielle, c'est lié au gain de productivité et à la, j'allais dire, et à l'augmentation de la population active. Les deux sont faibles. Gain de productivité, c'est un peu partout, ça a baissé, partout dans le monde.
Oui.
Enfin, chez nous, c'est quand même très faible.
Investissement
suffisant, on l'a dit. Et population active, on a un problème absolument majeur, et je termine là-dessus, qui est que les vieux
choc démographique.
Ne sont pas employés, taux d'activité très faible. Alors, c'est des problèmes qui sont des problèmes économiques, mais des problèmes aussi sociologiques. Parce que l'histoire de dire que quelqu'un est inutile à partir de 55 ans, c'est pas descendu du ciel. Que l'idée qu'on n'embauche pas les jeunes, c'est pas non plus descendu du ciel. Oui. Donc, c'est la sociologie d'un pays qui derrière sa fiscalité exprime au fond l'idée que profitons-en.
Oui, et puis il y a rien d'insurmontable, hein. D'autres pays arrivent très bien, donc en mettant les bonnes mesures, on peut arriver au bon résultat. Nathalie, vous êtes d'accord avec ce constat ?
Même si effectivement, la baisse de la productivité, elle est quand même pas partout pareille, et aux États-Unis, elle est quand même beaucoup moins forte, parce qu'effectivement, il y a cette forte innovation qui va contribuer à faire augmenter la productivité, y compris dans les services, qu'on critique souvent pour une faible productivité, mais pour le coup, l'IA contribue aussi. Alors, c'est pas que le coiffeur va plus vite.
On a du mal à mesurer quand même.
Dans les services, tout ce qui est services financiers, services consulting, etc., on a des gains de productivité effectivement qui sont bien supérieurs aux États-Unis. Et ça, on voit bien que c'est lié en fait à cette très forte dynamique en fait dans ce secteur. Pour le reste, il est certain qu'en France, on n'a pas de chance puisque au niveau de l'école, il y a des dysfonctionnements et donc les dysfonctionnements de l'école impactent en effet, comme il a été dit, l'entrée en activité des jeunes, puisque comme en fait elle fabrique des jeunes qui sont pas vraiment désirés sur le marché de l'emploi, forcément ça n'avantage pas le
départ. C'est ça l'un des problèmes, c'est l'inadéquation entre les formations et les besoins des entreprises.
À partir du moment où on a fait cette volonté d'avoir un certain pourcentage de bac, on a aussi entretenu je pense que la croyance était sans doute déjà là, le fait que les études générales c'était le Graal et que si on n'en faisait pas c'était un échec total et qu'on n'était rien et qu'on allait rien faire dans la vie. Donc effectivement, c'est des problèmes qui sont très ancrés. On change pas, on va pas devenir des Allemands demain matin, quoi. Ou en fait, en Allemagne, en effet, vous avez une école très imbriquée. Alors moi, je suis pas en train de dire qu'il faut le modèle allemand, mais on a un problème et on, en tout cas sur l'éducation, il est rarement adressé. C'est-à-dire que ce problème-là, pour le moment, on n'en entend jamais parler. Personne ne veut s'y coller et pourtant, c'est un problème. Les jeunes ne travaillent pas assez. Là, on a mis le prix du repas étudiant à 1 €. Cette mesure, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'échec total. C'est-à-dire que c'est pas ça qu'il faut. Il faut des jeunes qui puissent travailler pendant leurs études. Et c'est pareil, il y a plein de pays où ça existe. En France, on a l'impression qu'un étudiant qui travaille, c'est la fin du monde. Enfin, vous vous rendez compte que quand ils font des entretiens dans les enseignements supérieurs, il y a des examinateurs qui préviennent les étudiants qui ne pourront pas travailler pendant leurs études. Mais on est sur quelle planète ? Il faut que les étudiants travaillent 15 heures par jour.
Il faut se concentrer sur les études.
Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de pays dans le monde où les étudiants travaillent à côté de leurs études et ils font des carrières très belles. Enfin, donc on a un réel problème d'éducation. Ça, c'est au début. Et puis, comme il a été dit, à la fin, effectivement, pour tas de raisons, on pensait qu'à 55 ans, il fallait les pousser. Alors, la bonne nouvelle, parce que Gilles Berset aime bien cette bonne nouvelle, donc comme c'est mon collègue, je vais la relayer. C'est vrai que la nouvelle est plutôt bonne. C'est qu'il disait qu'effectivement, on a quand même une amélioration du taux d'emploi chez les seniors. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, je suis hyper optimiste.
On l'avait hier sur le plateau de Gilles Berset.
Elle est incroyable.
Voilà. J'adore les vieux.
Le triple Axel n'a plus le moindre...
Exactement.
Bravo. Non, c'est vrai.
L'un des sujets, Ludovic, et c'est l'un des sous-titres du bouquin, c'est comment sortir du travail qui ne paie plus. Antoine Fouché a beaucoup travaillé là-dessus. C'est quand même l'un des sujets aussi.
Ce que vous dites, Raphaël, est important parce qu'au-delà de la technicité du 2/3, 1/3 et tout ça, c'est-à-dire que le livre, je trouve, pointe plusieurs aspects qui sont des aspects presque sociologiques pour certains.
Bien sûr.
Et hautement politique.
Mais il y a des comptes. D'abord, le ruissellement ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un grand constat. Et je pense que vous l'adressez bien avec Alain parce que c'est une belle démonstration. Mais ne marche pas dans les conditions dans lesquelles on exécute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que la notion de ruissellement, c'est pas philosophique. C'est aujourd'hui. Et j'allais dire, ce livre, il traduit une chose. En tout cas, je le ramène sur la position française. C'est que j'ai presque le sentiment quand on regarde que la France a un problème de conjugaison en fait.
C'est-à-dire
c'est un pays qui écrit son économie à l'imparfait. honnêtement, que ça soit par rapport à la vieillesse, par rapport à, au fait de d'alimenter des choses, des choix qui ont été faits mais qui sont en train de s'effilocher gentiment, là où on aurait besoin de l'écrire au futur.
C'est quoi ? C'est un modèle qui est dépassé ?
Mais c'est un modèle qui est dépassé. Économique, social, politique. Il y a des problèmes sur l'innovation, il y a des problèmes sur la R&D, il y a des problèmes sur le fait de miser sur la jeunesse et de lui faire un marchepied, que ça soit bosser pendant ses études, mais aussi de la valoriser, parce que il va avoir une des grandes confrontations, on le sait, sur, entre jeunes diplômés et IA, ce qui va être la pire sanction qu'on puisse avoir dans le monde du travail. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire rentrer les jeunes, s'il n'y a plus de tremplin, c'est-à-dire que tous les petits jobs qui faisaient qu'on commençait en consulting, à faire des rapports pendant 2 ans, 3 ans, à pas dormir, alors les poches sous les yeux, mais qui était l'apprentissage du métier. Si tout ça est absorbé demain, ben, on va pas se réveiller à 32 ans consultant un matin en disant, tiens, ben, au fait, et oui, ça fait 10 ans que j'attends et maintenant je suis consultant.
Et pour avoir des seniors, il faut avoir des juniors.
Hein, ouais, exactement. Donc, il y a vraiment un problème de conjugaison. Et ça fait rire Jean-Hervé, mais c'est après, il y a la question salaire, que je trouve très très aiguë, parce qu'il y a une vraie vraie question salaire, et c'est la question que vous posiez initialement.
Enfin, la répartition profit-salaire, oui.
Je l'ai souligné, parce qu'il y a vraiment un chiffre qui m'a marqué dans le bouquin, c'est que sur la période 2017-2025, la rémunération brute des salariés a progressé de moins de 1%. C'est-à-dire que pour doubler son niveau de vie, maintenant il faut 70 ans en France. Oui, mais c'est comme ça.
Mais on vit plus vieux, c'est pour ça.
Non, mais tout à l'heure, Jean-Hervé disait, un pays doit avoir des envies. S'il faut raisonner sur 70 ans, l'envie, elle est un peu compliquée.
Oui, et puis on comprend qu'il y a une forme de démotivation.
Je crois qu'on
a un effet délétère sur la démotivation.
Une fois de plus, tout ça est très critiquable, les chiffres, les trucs, etc. Et les mesures qui sont proposées sont deux leçons, de mon point de vue. La première, c'est que dans toute cette affaire, moi j'aime bien cette expression de conjugaison au passé, et on le voit dans les programmes politiques qui commencent à apparaître, incapable de penser un univers qui soit un univers désirable. Désirable, y compris d'ailleurs dans ce qui était, je reviens sur ma jeunesse, ce qui était une des caractéristiques du modèle français, qui était tout aussi bordélique qu'aujourd'hui. N'imaginez pas que la 4ème République était un modèle
tranquille,
mais stabilité. Oui.
Une fille ou un garçon qui rentrait comme non qualifié pouvait espérer que on allait progressivement, s'il était bon, le qualifier, le truc, devenir chef d'équipe et même éventuellement ingénieur maison. Donc il y avait une logique, toute cette logique a complètement disparu. Il y a aucune progression. C'est un pays figé.
En même temps, les 30 Glorieuses ont été une parenthèse enchantée dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais connu ça avant et peut-être qu'on ne connaîtra jamais ça après.
Oui. Enfin bon, ça veut dire que il faut remettre du désir dans ce pays. Oui. Une partie du désir, c'est celui d'être, au fond, la vraie nature du progrès, c'est celle où on permet aux gens de développer leurs qualités, leurs trucs. Alors, ils démarrent selon la formation. Alors,
là ça manque dans le narratif politique, là, c'est ce que vous nous dites. Ça peut pas être que de la sueur, du sang et des larmes pour le redressement des comptes publics, les efforts qu'il va falloir faire, perspective.
Le deuxième sujet, juste avant que je laisse Ludovic. C'est que nous, on a ce qui est très rigoureux dans notre approche, c'est le 2/3, 1/3. Ça, c'est enfin après, on peut discuter du modèle, mais c'est quand même à mon avis. Bien fait. Le reste, il y a 8 principes. Ça veut dire quoi? Il faut retenir, chacun de ces principes peut être critiqué, hein. c'est pas des vérités absolues, loin de là, mais il faut prendre le problème dans sa globalité. C'est-à-dire que ces mesures fiscales qui reviennent, ah, je te prends un petit bout, et je te truc, etc. Tout ça, c'est des stupidités, c'est inefficace. Les gens l'oublient 2 secondes après. Imaginons à l'instant qu'on bloque qu'on fasse ce que les uns ou les autres souhaitent, baisse la TVA sur les produits pétroliers, etc.
Oui.
Ça coûte une dizaine de milliards.
Oui.
Qu'on va trouver où? J'en sais rien. Alors si, la dernière idée, c'est de supprimer toute l'aide au développement, ce qui est quand même pas, en termes d'image, on peut en prendre un peu, mais supprimer tout, c'est quand même pas... pour les jeunes, c'est quand même pas très excitant comme vision d'un pays. Et donc, c'est la mesure par excellence idiote. C'est-à-dire que on se prend un problème, on a un problème lundi, on résout un problème lundi, un mardi. Donc, il faut mettre à plat notre fiscalité qui n'est pas adaptée à cet équilibre subtil pour trouver des gains de productivité pour ceci, pour cela, offre, demande, et essayer d'avoir un dispositif qui ne remettra pas en cause, au fond, l'idée qu'il y a des inégalités, qui ne remet pas en cause, mais il faut qu'on soit compétitif et qu'il y ait une demande. Voilà.
Bon, alors il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent naître de le constat que vous venez de poser. D'abord, première question, est-ce qu'une révolution fiscale est possible ? On a déjà vu ça. Jean-Marc Ayrault avait essayé, pour sauver sa tête il y a 15 ans, de faire une grande remise à plat la fiscalité française qui a fait complètement de pchit. Est-ce qu'une révolution, toutes les révolutions françaises sont nées d'une révolution fiscale, mais est-ce qu'une grande remise à plat est possible aujourd'hui vu le contexte ? Ludovic de Sauter.
Compliqué. Alors, je rebondis à la fois sur la question à Romain Jean-Hervé. C'est-à-dire, tout à l'heure, Nathalie disait que, évidemment, ce qui est détestable, quand on parlait des investissements étrangers, c'est l'incertitude politique et de ça, mais c'est détestable aussi au niveau du citoyen. C'est-à-dire, le citoyen, il se comporte en partie comme une petite entreprise aussi. C'est-à-dire qu'il n'aime pas aussi être dans l'instabilité. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, il y a une perception, on l'a vu là sur le budget, c'est-à-dire, malgré toutes les annonces, disant, en fait, quand même, on va payer plus d'impôts. C'est-à-dire que il y a toujours une notion comme ça où ce pays ne se met pas en mouvement. Sur cet appel à la révolution, j'allais dire, elle va nous renvoyer sur la question politique, mais elle va nous renvoyer sur la question politique avec un immense champ politique, parce que honnêtement, la question n'est pas chez les citoyens, elle est aussi chez les patrons d'entreprises, c'est leur propre rôle, et qui sont pas très très au clair non plus sur leur envie de révolution. Ils parlent de baisse, mais jamais de révolution. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas juste dire que c'est le citoyen qui vote qui est idiot. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on le sait, et on va mettre un peu les pieds dans le plat, dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à leurs privilèges. Et ces privilèges-là, aujourd'hui, font que on veut bien parler éventuellement de baisse, mais de là de parler de révolution, oulala. C'est-à-dire que ça soit dans le secteur des aides publiques, que ça soit dans le secteur de la santé, que dans l'éducation, et j'en prends, et on va prendre la longue liste, aujourd'hui, il y a plutôt des forces d'inertie que des forces d'évolution. Je reviens à cette question de conjugaison. C'est-à-dire que c'est là où, à mon sens, la réponse n'est pas technique. La réponse, elle passe par la narration. C'est-à-dire que ce pays a besoin... Je vais aller même un peu plus loin que Jean-Hervé. C'est plus que d'un câble, d'une joie. Je pense que ce pays a besoin d'une libido économique. Je vais
installer. Allons-y, mais oui.
Non, mais réellement.
C'est un excellent concept.
Et je vais te dire, ça va rester.
Mais oui. La libido économique.
Comment faire la révolution en ayant une libido économique? Oui, alors là, je ne sais pas comme ça comment l'inventer, cette libido, mais une chose est certaine, c'est que en fait, en France, on a un petit problème aussi vis-à-vis de la lecture économique, et en particulier, on n'a pas assez eu d'enseignement de la théorie des choix publics, parce qu'en fait, ce qu'on décrit, c'est tout simplement l'entreprise, elle va bien évidemment s'attacher à son privilège. Le politicien ou le bureaucrate, celui qui a le pouvoir, lui, de toute façon, il n'existe que parce que en fait il y a une demande à son égard. Donc effectivement, il va entretenir cette relation permissive parce que de toute façon, il sait qu'il donne des privilèges, donc du coup, il sera réélu. Donc en fait, cette lecture nous explique effectivement plus facilement pourquoi en France il y a cette inertie, parce que on voit pas comment un politicien, il va pas se faire du mal volontairement, et les entreprises, pareil, elles vont à chaque fois plaider pour quelque chose qui va favoriser son activité, mais sans avoir évidemment de coûts. Donc ça, c'est quand même un des gros problèmes de la scène aujourd'hui politique française. Et effectivement, oui. dans ce contexte, on se dit qu'une révolution, elle aura du mal à avoir lieu, parce que qui va vouloir renoncer effectivement à son confort, à ses privilèges. En plus, c'est un pacte. C'est un pari qui est compliqué, puisque c'est un pari sur quelque chose justement d'incertain. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, ben là maintenant, on rase gratis, on fait quelque chose de nouveau pour avoir des bonnes conditions. Mais moi, aujourd'hui, qui me dit que je serai mieux qu'aujourd'hui? Donc forcément...
Et il y a toujours des gagnants et des perdants.
Donc ça explique en effet l'inertie.
Bon, Jean-Hervé, je voudrais qu'on rentre... cette émission s'appelle Les Experts, donc on va faire un peu d'expertise fiscale dans vos 8 propositions. Je vais les citer rapidement. Vous bougez les cotisations sociales employeur, il faut les baisser. Les cotisations salariales salariés, là, vous instaurez une CSG à taux progressif. Donc, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Il y en a qui paieront plus cher. Impôt sur le revenu, il faut le baisser pour augmenter les salaires nets. Vous augmentez la fiscalité du capital. vous augmentez, vous transformez l'IFI pour le transformer sur un impôt sur la terre agricole et urbaine.
Non, ah, c'est georgisme.
C'est une idée qui d'ailleurs est tirée d'un petit camarade économiste tout à fait brillant qui s'appelle Tranois.
Alain Tranois.
Et quand on regarde l'évolution de ce dont on a bénéficié, moi j'en ai bénéficié, tout le monde a bénéficié, c'est la hausse des propriétaires ont vu le prix du mètre carré augmenter. Mais en fait, c'est la surface,
l'emprise au sol
qui a augmenté. Donc voilà, on refait une évolution de ce truc en le rendant plus proche de la réalité des gains qui ont pu être faits. Moi, j'avais pas d'argent, et aujourd'hui j'ai un appartement. Donc voilà, c'est la vie. J'ai successivement bénéficié toutes les hausses de prix du mètre carré.
Et une fois qu'on a augmenté les taxes sur le patrimoine, on augmente l'impôt sur les héritages aussi. Vous augmentez les taxes.
Sauf
en cas d'investissement placements.
Top. Le vieillissement, c'est pas bon. Sauf sur une chose. Qui est que la vie a une durée déterminée. On va avoir l'impact du vieillissement majeur sur le problème des héritages. Hier, j'ai vu que les Hospices de France.
Oui.
Disait, là on rentre sur un autre volet qui est celui de l'intergénérationnel. En réalité, il va y avoir l'énorme choc auquel on...
5 000 à 9 000 milliards de patrimoine vont changer demain, voilà, d'ici 2040.
Donc c'est évident que ça... Il faut aussi prendre le problème dans cette définition. Moi, après, on a fait cette affaire à coût constant. Mais le coût... Et là où le livre est très faible...
Non.
Je fais du marketing. Non, c'est qu'il n'y a pas de.
C'est pour le numéro 2.
Je ne dis pas du tout comment on réduit les dépenses.
Et c'est le suivant.
Ils anticipaient mes questions. Ouais. Avant d'y arriver sur la question des dépenses,
c'est évident que les calculs le montrent, c'est que les transferts d'héritage vont être multipliés de manière très significative dans les années qui viennent, tout simplement parce que.
La FHF propose notamment que ça serve à financer la dépendance.
Et deuxième sujet, quand on me dit 80%, 85% des gens sont contre
exonérés.
Les trucs, 85% des gens ne sont pas concernés.
Oui. Et oui.
Donc même c'est un politicien très froussard et toi s'en rends compte. Moi j'ai un héritage, j'imagine tous les trois, mais 85% des Français n'ont pas.
Oui, mais n'en veulent pas. Emmanuel Macron a d'ailleurs refusé toujours de toucher.
Mais moi, je me fiche.
Au droit sur les successions, parce que les Français, même ceux qui sont exemptés, ne veulent pas taxer. C'est l'impôt sur la mort.
Monsieur Lejean, mais c'est son opinion et j'ai la mienne. Point.
Absolument.
Mais juste, j'entends sur cette question de démographie.
Une devise de sauter.
Il y a environ, ça concerne 15-20% de la population et tout ça. Maintenant, c'est toute l'histoire de la pompe parce que c'est indiqué dans le livre d'ailleurs, c'est que sur ces montants, cette grande transmission qui va brasser des milliers de milliards dans la décennie qui vient, honnêtement, les gens qui vont recevoir cet argent seront eux-mêmes des seigneurs déjà.
Ah oui.
C'est une vraie question. C'est-à-dire que en fait, cet apport dans l'économie ne se joue plus dans le bon timing de la vie. En fait, et c'est-à-dire le petit coup de pouce, même sur un petit héritage qui permettait à quelqu'un de financer le petit studio, la voiture, les choses comme ça, n'arrive plus dans le bon timing de la vie. C'est-à-dire qu'on devient tous progressivement des écureuils, avec des noisettes gentiment, et on se transmet des noisettes qui vont être stockées directement. Donc on n'alimente plus l'économie réelle. Après, je reviens sur cette notion de démographie parce qu'elle est à mon avis centrale. Et si tous les quatre demain on se lançait en politique et on lançait le MRF, le mouvement de la révolution fiscale, avec Jean-Hervé Lorenzi, candidat à la
magnifique
et autres, je pense qu'il y a une notion.
Le parti de la libido fiscale.
Le parti de la libido fiscale.
Cette campagne, dantesque, ça va être formidable. Non, mais la présidentielle.
Il y a une notion de discours sur laquelle je pense, et je vais être optimiste, ce pays peut se retrouver, et il faut l'assumer. On l'a vu dans le cadre, et on le voit en ce moment dans le cadre du budget militaire, c'est-à-dire que quand il y a un plébiscite, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, on est dans une situation où le fait d'augmenter le budget militaire est quelque chose qui passe.
Donc,
ça veut dire que ce pays a des formes de conscience. Il faut lui donner de la fierté. La France va bien quand elle fait des TGV, des Minitel, des Airbus, des Ariane Espace et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'arrive même pas à construire une autoroute. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le fait de faire 3 km de bretelles d'autoroute. Donc, il faut redonner des éléments de fierté à ce pays. On en a besoin, des succès. On est toujours en train de se comparer à des géants qui vont s'introduire en bourse et autres. Il nous faut des éléments palpables et concrets. Ça veut dire miser, faire des choix, mais faire des impasses aussi. C'est-à-dire dire, on va faire la course du quantique, mais pendant ce temps-là, on ne fera peut-être pas la course du logiciel pour faire les réunions, pour remplacer Teams, parce que c'est une catastrophe et on ne sait pas le faire.
Mais l'État s'en occupe de ça, il y a un projet public pour ça.
Mais après, au-delà de cette fierté, il y a un autre aspect qui est tout aussi important, c'est que je pense que le dossier de la démographie est un élément essentiel sur lequel le pays peut se retrouver. C'est-à-dire que vous prenez le métro, vous prenez le transport, vous asseyez à une terrasse de café, cette conversation, je l'entends autour de mes tables, plusieurs fois par semaine, de gens qui disent oui, il va falloir que je voie avec mon papa pour trouver une aide à domicile et tout ça. C'est quelque chose qui croit toute la société le traverse. Et aujourd'hui, construire un discours, une économie et une révolution fiscale pour dire comment on s'en sort, comment on va gérer ces situations-là, c'est quelque chose sur lequel on peut bâtir.
Est-ce que je peux juste rajouter un chiffre? Les aidants non professionnels, oui. 11 millions. Mmh. 11 millions de Français, du meilleur ou d'une autre, aident un parent, un ami qui se trouve...
11 millions, c'est colossal.
11 millions, c'est absolument géant, c'est géant. Donc ce pays est très curieux, il est à la fois très exaspérant par son refus de changer quoi que ce soit, et à la fois aidant, vous savez qu'on a le pourcentage le plus important de financement de toutes les grandes causes. Oui. Enfin bon, je veux dire, c'est un drôle de... Un
pays,
il faut le prendre
généreux.
Tel qu'il oui, est, oui. Et il faut le faire bouger. Moi, je suis d'accord. La démographie est absolument majeure. Alors, derrière, il y a l'histoire des donations. Arriver à faire que cet argent...
Circuler le capital.
Circule.
Mais oui. C'est ça la grande question.
La génération suivante.
Oui. Nathalie.
Oui, c'est d'ailleurs, effectivement, plutôt que même la taxation sur l'héritage, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir le faire, enfin, éventuellement de favoriser ces transmissions intergénérationnelles. Il est vrai que les personnes âgées pourraient effectivement, moi aussi, en avoir un proche de moi, très âgé, on en a deux. Leur préoccupation, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont pas donné tout de suite, c'est qu'en fait, ils ont peur du coût qui nous imposerait.
Aussi.
Donc, il faut bien voir
bien
que
sûr,
c'est
le capital est aussi consommé dans les dernières années.
Et ça, oui. Souvent, certains, en fait, le sous-estiment. Mmh. Mais c'est vrai que chez eux, c'est une préoccupation parce que d'abord, ils veulent rester chez eux.
Oui.
Et deuxièmement, si jamais ils doivent effectivement dépenser plus parce qu'ils ne peuvent plus tout faire eux-mêmes et qu'il faut effectivement avoir des aides, ils ne veulent pas être un poids pour nous. Alors c'est vrai que du coup, on va sans doute hériter beaucoup plus tard et ils ont du mal donc à passer la main aux jeunes générations, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais par crainte aussi.
Oui, oui.
Il ne faut pas le sous-estimer cet aspect-là.
Si je résume ces 8 propositions-là, c'est quand même moins de fiscalité sur le travail et un peu plus sur le capital.
Non, c'est une répartition un peu différente. Prenons le cas de la CSG, parce que celui-là, il me fascine. Vous savez que tout le monde est à 9,2. C'est-à-dire que quand on est au SMIC, il y a la chose la plus stupide.
C'est une flat tax.
Il y a 50% des Français qui ne payent pas, qui payent l'impôt, le truc.
Merci de le rappeler.
C'est idiot. Les gens, ils payent la TVA et la CSG. Mmh. Toute personne qui travaille, TVA, toute personne...
Il y a une flat tax sur le travail qui s'appelle la CSG, y compris
évidemment
les chômeurs
avec
la CSG.
Des prélèvements sur les revenus des gens. Donc,
oui.
Quand on prend sur un SMICAR, on prend les 9,2, ça fait quand même pas très loin d'un mois de revenus. Alors même si le SMIC augmente, etc., enfin, il est quand même pas très important.
Il y a quasiment plus de charges sur le SMIC. Hein.
Fouché. Donc, il faut te le rendre progressif. Deuxième sujet, je suis pour qu'on prélève sur les retraités aisés. Mais ça, j'ai vu avec bonheur que ça commence à répandre partout. Je veux dire, il n'y a pas de raison.
Sauf qu'on n'est pas. Tout a été écarté lors du dernier projet de loi de finances.
La décision la plus stupide.
C'était sur la table. Et
la décision la plus stupide qui a été faite dans ce budget, c'est diminuer le financement de l'apprentissage avec le fameux effet d'aubaine des économistes qui expliquaient que c'était plutôt
des
élèves.
Oui.
Enfin bon, je trouve que c'est quand même mieux que des gamins.
Ça a permis à beaucoup de gens de faire des écoles payantes.
Voilà.
Oui, en école de commerce, on voit très bien que des jeunes étudiants qui n'auraient pas postulé ont postulé parce qu'il y avait l'apprentissage.
Ça, on l'a raboté. Et ouais. Par contre
Et par contre,
moi,
je veux dire, on a protégé et on terminera sur cette nouvelle exceptionnelle, c'est la bêtise la plus absolue. On a protégé 10% d'abattement pour les retraités aisés qui...
Pour moi, vos dépenses quotidiennes.
Par cette, l'intelligence de cette mesure. Et je dois dire que lorsque je m'étais déclaré pour l'harmonisation de la CSG des retraités avec ceux les actifs, je dois dire que ça,
oui, parce que tout le monde ne paye pas 9,2.
Oui.
Les retraités ont une CSG préférentielle.
Oui, hein. Oui, et bien le
4 à 7%.
Je vais dire, j'avais reçu, et je ne suis rien dans ce dispositif, mais j'avais reçu des menaces de mort. Tu nous as trahis.
Ah oui.
Ouais, ils sont complètement fous. Non, les mecs, les retraités.
Ah oui, touche pas au Grisby.
Le retraité aisé. Le retraité aisé n'est pas que raisonnable. Ah oui. Et pas totalement.
Mais pas forcément quiétiste.
Dans la libido économie. Hein.
Bon, très bien. Ben, ce sera le mot de la fin. Je rappelle votre ouvrage, Jean-Hervé Lorenzi, votre co-auteur, Alain Wimmer. Guerre et paix entre profit et salaire pour une révolution fiscale. Voilà, il sort la semaine prochaine aux éditions Odile Jacob. Merci Jean-Hervé, merci Nathalie Janson, merci Ludovic pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes de podcast. Tout de suite, vous retrouvez BFM Entreprise avec Nathalie Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. 9h30, 10h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à toutes et à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.